France Inter.
France Inter. Le téléphone sonne. Christelle Rebière.
Airbag, Takata, faites vérifier votre véhicule. Vous avez sans doute vu cette mise en garde sur les panneaux lumineux des autoroutes cet été. Des airbags censés nous protéger qui peuvent tuer. Mais on pourrait parler aussi des freinages d'urgence intempestifs ou des ceintures de sécurité défaillantes. Bref, notre voiture, dont la sécurité est sans cesse améliorée, devient parfois un danger. Et les rappels s'enchaînent comme jamais. 1 700 000 véhicules sont censés avoir passé l'été à l'ombre, immobilisés. Sauf à avoir remplacé les fameux airbags Takata. Or, les temps d'attente peuvent encore durer 6 mois. Si vous êtes sur la liste d'attente, d'ailleurs, avez-vous quand même pris le risque de conduire? Plus globalement, la technologie rend-elle paradoxalement nos voitures vulnérables? Quels sont les contrôles, les tests? Les rappels s'enchaînent comme jamais, soit sur les moteurs, soit sur les aides à la conduite. Notre voiture est bardée de capteurs divers et variés, mais à quel prix? Elle reste fiable, c'est sûr. Mais c'est comme si on en perdait un peu la maîtrise. Alors on se met au volant, ce soir au téléphone sonne et on espère rouler en toute sécurité.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Bonsoir Johanna Perrache.
Bonsoir.
Et merci d'être avec nous. On a voulu commencer ce soir le téléphone sonne avec votre témoignage. Donc on vous a contacté évidemment avant l'émission. Vous avez été victime d'un freinage automatique. Racontez-nous ce qui vous est arrivé le 25 avril dernier.
Le 25 avril dernier, je roulais sur l'autoroute. Donc j'étais entre 110 et 130 km/h parce que l'autoroute était en légère montée à ce moment-là. Et tout à coup, mon véhicule a freiné très fortement jusqu'à s'arrêter. Ça a dû durer 3 secondes maximum. Donc le véhicule qui était derrière le mien nous a percuté.
Oui.
Donc il y a eu un freinage très très puissant de mon véhicule à ce moment-là.
Mmh. Et vous avez compris ce qui s'était passé aujourd'hui? Vous savez ce qui s'est passé? Pourquoi votre véhicule à ce moment-là s'est mis à freiner brutalement?
Non, aujourd'hui, je ne sais toujours pas et c'est la grande difficulté face à ce type de problématique. Il est extrêmement compliqué d'avoir accès à des expertises et quand on y parvient, souvent ce sont des expertises qui sont soit superficielles, soit qui ne permettent pas, quoi qu'il en soit, de déterminer les causes de ces freinages.
Mmh. Aujourd'hui, vous avez créé un groupe Facebook pour rassembler les victimes de tous ces freinages fantômes. Vous n'êtes pas la seule, finalement, il y a combien de personnes qui vous ont rejoint?
Alors moi j'ai reçu plus de 600 témoignages
600.
Là, depuis début
c'est
juillet.
Ouais. Depuis début juillet.
C'est énorme. Ouais,
oui.
Depuis début juillet. C'est énorme. Alors je pense qu'il y a plusieurs causes qui expliquent ces freinages, probablement essentiellement en lien avec les systèmes d'aide à la conduite, donc des problèmes de capteurs ou de calibrage de capteurs ou d'électronique entre ces différents capteurs. Mais les constructeurs ont l'habitude de dire dans tous les témoignages que je lis que c'est la première fois qu'ils entendent ça à chaque fois que quelqu'un leur rapporte une situation, alors qu'en fait il y a des centaines et des centaines et des centaines de personnes qui sont concernées.
Mmh. Et vous trouvez qu'il y a un manque de transparence de la part des constructeurs là-dessus?
Oui, complètement. Les constructeurs, tant qu'ils peuvent déjà ne pas répondre, ils ne répondent pas. Je l'ai vécu personnellement, j'ai mis plus de 3 mois et une forte médiatisation avant d'avoir un retour de mon constructeur Peugeot, en l'occurrence. Et je ne suis pas la seule, et ça concerne aussi les autres constructeurs. Les constructeurs ne donnent pas accès en fait, à des éléments dont on a besoin, notamment quels sont ces systèmes, comment est-ce qu'ils fonctionnent, qu'est-ce qui peut dysfonctionner. Donc aujourd'hui, c'est vraiment l'opacité totale à ce niveau-là. En plus de ça, on n'a pas les outils et on n'a pas accès aux outils qui pourraient permettre de comprendre ce qui se passe dans les véhicules et donc de réparer les défauts.
Il y a quand même une chose qui a bougé, c'est que le ministère des Transports va mener des évaluations après ces signalements, Johanna.
Tout à fait. J'ai été reçue en entretien dans un service spécialisé du ministère en charge des transports. Aujourd'hui, ils souhaitent interroger les constructeurs pour voir s'il y a eu des remontées de la part de leurs clients. Et puis, ils souhaitent aussi effectuer des tests sur des véhicules pour voir s'ils trouvent des dysfonctionnements. Et des tests sur des véhicules qui sont issus de véhicules dont on sait qu'ils ont dysfonctionné, en tout cas issus des mêmes séries, mais Bon, je suis peut-être un petit peu sceptique sur la méthodologie et sur ce que ça va permettre de prouver, mais en tout cas, j'ai senti qu'il y avait une attention sincère de la part du ministère en charge des Transports.
Merci d'avoir témoigné, Johanna Perrache. Alors, pour dialoguer avec vous tous au 01 45 24 7000, près de moi, Anne-Laure Barral, bonsoir.
Bonsoir.
Les auditeurs vous connaissent bien, vous êtes journaliste à la cellule Investigation de Radio France et vous avez réalisé une grande enquête sur les airbags Takata. Nous sommes en ligne avec Christophe Teuil, bonsoir.
Bonsoir.
Vice-président de la Fédération française de l'expertise automobile, on va en parler des experts. En studio aussi, Bernard Julien, soyez le bienvenu.
Bonjour.
Maître de conférence en économie à l'Université de Bordeaux, spécialiste de l'industrie automobile. Et nous sommes en ligne avec Marie-Amandine Stévenin, bonsoir.
Bonsoir.
Présidente de l'UFC Que Choisir. Alors, Johanna nous disait, les constructeurs ne sont pas transparents, Bernard Julien.
Bah, effectivement, les constructeurs, ils ont du mal à se positionner par rapport à ces questions-là, parce que très souvent, d'abord, ce ne sont pas eux qui conçoivent les dispositifs. Hein, ils ont des sous-traitants, des électroniciens automobiles qui le font pour eux. Hein, et donc, ils ne sont pas eux-mêmes maîtres des technologies qu'ils installent dans les véhicules, puisque ce sont des dispositifs qui, comme les airbags Takata d'ailleurs, ne sont pas conçus par eux, mais conçus par d'autres pour eux, si vous voulez, d'une certaine manière.
Hein, et donc, ça m'inquiète un peu quand vous dites qu'ils ne sont pas maîtres des technologies. Ça veut dire qu'ils ne font pas eux-mêmes des tests sur les technologies?
Ils les testent, mais ils les font tester avant de les tester, puisqu'ils délèguent la responsabilité des dispositifs en question à des équipementiers automobiles qui sont des électroniciens automobiles qui conçoivent les aides au freinage d'urgence. Hein, l'ensemble des aides à la conduite dont vous nous parliez sont des aides à la conduite qui sont conçues et calibrées par d'autres pour les constructeurs. Alors ça n'empêche pas les constructeurs qui sont maîtres de l'architecture de tout cela, de tester et d'être in fine
responsables. Ils retestent derrière ou pas ?
Mais effectivement,
oui.
Ils retestent derrière. Et puis ensuite, il y a, en cas de contentieux, en cas de problème comme celui que nous évoquons, il y a un problème d'impartition de responsabilité. Donc ils sont responsables en dernier recours parce que c'est eux qui ont vendu le véhicule au ménage. Mais eux-mêmes, ils vont se dépêcher de se retourner contre leur équipementier automobile qui leur a fourni le dispositif. Alors évidemment, ça renvoie au fait que ces dispositifs que les constructeurs choisissent ou ne choisissent pas d'équiper des véhicules. Hein, en l'occurrence, l'aide au freinage d'urgence, c'était une option sur des véhicules haut de gamme autrefois. C'est maintenant un dispositif qui est rendu obligatoire. Hein, et donc, évidemment, le constructeur, il va tout faire pour faire en sorte que, un, ça coûte le moins cher possible, hein, et que deux, ça défaille le moins possible, quand même.
Ça, on va y venir.
Mais évidemment, on a ici des consommateurs qui essuient les plâtres sur des technologies qu'on installe très vite et qu'on ne maîtrise pas complètement au moment où on les installe. Hein. Aujourd'hui, même sur les airbags, on sait qu'il y a encore des problèmes, hein, parce qu'on est obligé, dans l'automobile, de développer très rapidement des dispositifs qu'on ne maîtrise pas complètement.
On reste d'abord sur le manque de transparence des constructeurs, Marie-Amandine Stévenin.
Oui, effectivement, là, c'est une difficulté qui est soulevée par l'auditrice. C'est que finalement, le constructeur lui-même essaye de se décharger de sa responsabilité en disant que c'est pas lui qui a été l'équipeur et c'est pas lui qui a construit le dispositif. Mais ça, du point de vue du consommateur, ça n'a pas d'impact. Le fait qu'il ait pris un équipement construit par quelqu'un d'autre, par une autre entreprise, ne lui permet pas d'échapper à sa responsabilité. Le consommateur, lui, il a acquis son véhicule auprès de ce constructeur, point. Et c'est vrai que le consommateur, lui, il n'a pas accès à toutes ces informations, donc il ne peut pas savoir.
Christophe Teuil, vous souhaitez intervenir ?
Oui.
Je rappelle que vous représentez les experts. J'allais m'adresser à vous, justement.
Ah, oui, je représente la Fédération française de l'expertise automobile qui regroupe la très grande majorité des experts automobiles. Sur la transparence des constructeurs, ce que j'aurais envie de dire quand même, c'est qu'il y a eu un avant et un après Takata, puisque ça a été un véritable...
On est encore pendant, quand même, si je puis me permettre.
Oui, alors, le après, effectivement, semble s'éloigner. Et en tout cas, ça va être assez long.
Je crois qu'on
Mais
est
on est, en tout cas, dans tous les cas, sur un tournant pour l'automobile. Autrefois, les constructeurs, et même bien avant Takata, ne communiquaient pas, si vous voulez, sur les défauts. Aujourd'hui, ça a bien changé. Il y a beaucoup plus de transparence, malgré tout. Nous, on le constate dans les ateliers et dans le contact qu'on a avec les constructeurs. Chaque rappel est annoncé publiquement par des mails, des SMS, via la presse ou même les réseaux sociaux. Mmh. Les campagnes de rappel, il faut quand même le préciser, visent à expliquer clairement le danger, la procédure et les solutions proposées aux conducteurs.
Vous parlez des rappels, pardon, mais Anne-Laure Barral est assez dubitative, journaliste à la cellule investigation de Radio France.
En fait, effectivement, le constructeur, c'est lui qui a toutes les informations pour savoir sur quel véhicule il a installé quel airbag ou qui peut poser problème. Et donc, c'est lui qui peut, par le fichier des cartes grises, prévenir l'automobiliste qui est concerné par un problème de sécurité. Mais il n'a aucun intérêt économique à le faire de grande ampleur. C'est ce qu'on a vu sur les airbags Takata. Donc, il a séquencé d'abord les plus anciens, puis les zones humides. Sauf qu'on voit que parfois, il s'est trompé. Il ne pensait pas qu'il y aurait des ruptures d'airbag et d'explosion d'airbag en métropole. Et en fait, il a fallu attendre des accidents. Et même dans les rappels...
Il a tablé sur le fait, vous voulez dire en creux, que finalement, c'était peut-être pas si grave que ça ?
Quand il s'est aperçu, on les a questionnés pour savoir à partir du moment où ils ont su que ces airbags pouvaient tuer le conducteur, à quel moment ils ont commencé à décider de les contacter, ces conducteurs, et de rappeler les véhicules. Et c'est eux qui organisent le séquençage des courriers et même leur formulation. Les premiers courriers, ils ne sont pas du tout sur un danger mortel. Ils ne sont pas encore faits sur les réseaux sociaux avec de l'intelligence artificielle qui ferait que je suis fan de BMW, je regarde régulièrement des pubs dessus ou des informations dessus, j'aurais une pop-up qui apparaît. Ça, les constructeurs, on n'en est pas encore là, en fait. Mmh. Donc, le rappel, il a progressé, parce que la communication du rappel a progressé, malheureusement, parce qu'il y a eu des accidents et il y a eu des mobilisations d'associations d'un service de l'État aussi.
Donc, ils ont été un peu contraints de le faire, quand même, Christophe Theuil.
En fait, c'est là-dessus que j'allais préciser. Les constructeurs ont une obligation de prévenir les autorités, la DGCCRF notamment, à travers...
La Direction générale de la concurrence. Oui.
Et de la répression des fraudes, effectivement. Ils ont une obligation d'information. Ils doivent mettre, ça c'est clair et c'est écrit, ils doivent mettre à disposition des automobilistes sur leur site des systèmes de requête qui permet à l'automobiliste d'entrer son numéro de VIN pour savoir s'il est concerné. Et on a au niveau européen ce qu'on appelle le RAPEX. Alors, c'est sûr, je suis
le
tout
RAPEX,
à fait...
Le RAPEX, c'est...
C'est un organisme qui recense au niveau européen tous les rappels des constructeurs. Pour quelques chiffres, si vous voulez, 727 rappels des constructeurs en 2023, 7000 en 2024. Ouf. Et depuis le 1er janvier 2024 jusqu'à la fin du premier trimestre.
X10 en espace d'une année,
mais ce n'est pas forcément négatif. Parce que finalement, ça démontre quoi ? Qu'il y a une attention bien plus particulière et bien plus forte des constructeurs sur ces problématiques. Par contre, je voudrais rebondir aussi.
Ça, c'est
sur
le verre d'eau à moitié plein, oui.
Oui, mais.
Oui, non, mais c'est vrai, vous avez raison, c'est vrai.
Il faut quand même le constater, si vous voulez.
Mais ça veut dire que ça se banalise aussi, qu'autrefois, c'était un peu la honte, quand même, un rappel pour un constructeur, et que ça l'est moins aujourd'hui, ou qu'il le justifie plus au nom de la sécurité, Christophe Theuil ?
Je pense que autrefois les problématiques qu'on avait de panne et de rappel concernaient uniquement les véhicules, enfin la partie motorisation avec des moteurs thermiques, à l'époque où la voiture était un simple véhicule. Aujourd'hui, on a affaire à des véritables smartphones sur roues.
Oui.
Ça demande une analyse.
Il y a encore des rappels sur les moteurs aussi, hein.
Mais il y a encore quelques rappels sur les moteurs, mais c'est pas là, si vous voulez, on a le plus gros des rappels.
C'est
Par
vrai.
Contre, pourquoi ils prennent autant de temps des fois les constructeurs à réagir? Parce que les défauts sur les véhicules modernes sont plus complexes. Il faut d'abord qu'ils analysent, qu'ils étudient, qu'ils comprennent les causes, qu'ils prévoient aussi de déterminer quelles voitures sont concernées. Et dans ces phases d'investigation, si on prend l'exemple des airbags Takata, eh bien, ils ont été de mauvaises surprises en mauvaises surprises. Mmh. Et ensuite, le constructeur, lui, il doit préparer une solution fiable. Il peut pas travailler sans préparer une solution fiable, parce que sinon, il ferait une alerte sans proposer de solution, et ça serait bien pire. Mmh.
Bonsoir Claire.
Bonsoir.
Nous vous écoutons. Soyez la bienvenue sur France Inter.
Merci, bonsoir à tous. En fait, moi je voulais témoigner parce que lors du dernier contrôle de mon véhicule, du contrôle technique, donc le système a interrogé le fichier national, et il est apparu que mon véhicule était concerné.
Concerné donc, par les rappels sur les airbags Takata ?
Exactement, par les airbags Takata. Donc, je me suis rapprochée du garage le plus proche. Et là, on m'a demandé donc mon numéro de châssis et autres. Oui. Et on m'a dit, non, votre véhicule n'est pas concerné. J'ai dit, mais c'est quand même bizarre, il est dans le fichier. Donc, on m'a certifié que non. J'ai demandé un document officiel, on n'a pas su m'en produire. Je me suis rapprochée des fraudes qui m'ont dit en fait qu'il fallait que je me renseigne régulièrement, que ça pouvait évoluer. Donc je ne vois pas pourquoi, parce que mon airbag ne changera pas.
Oui, c'est-à-dire où vous êtes concerné ou vous n'êtes pas concerné, on ne voit pas bien effectivement le côté évolutif de l'affaire.
Voilà, on m'a renvoyé par sur d'autres sites, hein, voilà, SSM, MVM ou je sais pas quoi. Et puis finalement, 3 mois après, BMW m'a envoyé un courrier comme quoi mon véhicule était concerné. Donc là, j'ai rappelé le garage avec lequel j'étais en relation en premier lieu, en leur disant que je comprenais pas parce que on a une version et puis une autre. Et apparemment, donc les constructeurs, comme ils ne peuvent pas tout traiter d'une seule vague, ils font, bah, comme vous l'avez dit auparavant, ils font des rappels peut-être sur les plus anciens et puis après pour d'autres, sur d'autres critères. Mmh. Donc là, le mien est enfin apparu dans ce garage-là. Donc là, j'ai pu changer mon airbag. Mmh. Mais ça a encore duré un mois et pendant 6 mois, j'ai roulé avec un airbag qui finalement était dangereux. Et maintenant, mon autre doute, c'est pourquoi le conducteur, l'airbag conducteur uniquement et pas le passager.
Ah, alors ça c'est une question peut-être Anne-Laure Barral.
Oui, il change d'abord l'airbag conducteur parce que c'est celui qui peut viser directement et tuer le
Alors
le
on explique ce qui s'est passé avec les airbags Takata. Pourquoi, en fait, parlez-nous de ce gaz, de cette histoire de capsule.
Alors, les airbags Takata, c'est un fournisseur japonais qui se lance sur le marché des airbags au début des années 2000 et il parie sur une technologie à base de nitrate d'ammonium. Le nitrate d'ammonium, c'est ce qui a fait exploser AZF, c'est ce qui a fait exploser le port de Beyrouth. Donc, un explosif qui est très instable dès qu'il est soumis à l'humidité. En fait, il est sous forme de cristaux dans une petite capsule en acier dans l'airbag et il gonfle le coussin parce qu'un airbag, c'est une explosion contrôlé, qui va gonfler un coussin pour amortir le choc de l'accident. Mais là, ce nitrate d'ammonium qui permet à Takata d'être un peu moins cher que ses concurrents, de s'adapter aux véhicules légers qui fonctionnent bien pour les petites citadines, il va prendre 20% du marché assez vite. Sauf qu'il triche pendant les tests que lui demandent les constructeurs de faire, c'est-à-dire simuler une sorte de roulage de la voiture avec des différentes combinaisons de température, d'humidité, pour voir comment il vieillit un peu cet airbag. Et en fait, pendant les tests, il explose dans les laboratoires de Takata et ça c'est renseigné par la justice américaine, par des anciens salariés de Takata aux États-Unis.
Ce sont les États-Unis qui ont sorti en premier.
Voilà. En 2014, l'affaire éclate. Il y a enquête du FBI et de l'autorité de sécurité routière aux États-Unis, ce que nous n'avons pas à l'époque en Europe et en France.
Et nous, on continue à mettre des airbags Takata dans les véhicules jusqu'en 2019. C'est-à-dire 5 ans plus tard.
C'est ça. Et en fait, en 2017, Takata fait faillite et il est condamné parce qu'il est poursuivi par des familles, mais aussi par des constructeurs qui sont ses clients à qui il a menti. Donc, il fait faillite et il doit payer $1 milliard et ses dirigeants sont condamnés pour conspiration quand même. Donc, c'est pour ça que ça a été le plus gros rappel de l'histoire de l'automobile.
Oui, mondial, on peut dire.
Il y a 100 millions d'airbags Takata qui ont été fabriqués, même 200 millions avec différentes technologies. Mais donc, c'est un scandale aux
États-Unis. Donc les constructeurs ont été floués, Bernard Julien.
Alors, ils ont été floués et ensuite, comme on le précisait tout à l'heure, ils ont quand même géré à l'économie les campagnes de rappel. Hein. Ils ont tracé, des lignes de partage en France entre les zones humides et les autres qui l'étaient moins, qui se sont révélées être assez largement défaillantes à leur tour. Hein, ce qui fait que là où les airbags étaient censés ne pas exploser, ils ont explosé parce que effectivement, en voulant améliorer, ou en tout cas ne pas dégrader la performance financière, on a cherché à minimiser le nombre de cas concernés. C'était aussi une
C'est-à-dire
manière...
que ça coûte cher aux constructeurs parce qu'il faut les changer.
Voilà, et puis après, il faut effectivement qu'ils aient des alternatives à Takata à proposer aux consommateurs.
Ça veut dire que les airbags en question coûtent plus cher que les Takata.
Oui, ça veut dire surtout que quand vous devez changer un airbag dans un garage, c'est infiniment plus compliqué et plus cher que quand vous devez le monter sur un véhicule en première monte, comme on dit, c'est-à-dire à l'usine, si vous voulez. Hein, et donc, évidemment, quand vous devez faire en garage ce que vous n'avez pas bien fait à l'usine, en termes de coût, un rapport de 1 à 7 ou 1 à 8, quoi. Sans compter que dans les garages, on a autre chose à faire que de remplacer des airbags, et que tout ceci pose des problèmes
pour que le service soit rendu. Mais il y a quand même eu un retard incroyable des constructeurs qui fait qu'aujourd'hui, on est dans l'entonnoir et qu'il y a 1 700 000 véhicules qui n'ont pas le droit de circuler à l'heure où on se parle. C'est quand même assez fou.
Il y a eu un retard surtout de Stellantis en fait, et de PSA sur le sujet, parce que là, cet été, le ministère des Transports, enfin l'inspection générale du ministère des Transports a sorti un rapport pour dire en Europe, il y a quand même des constructeurs qui se sont dit « ce qui se passe aux États-Unis, ça pourrait aussi nous arriver sur nos modèles qu'on vend en Europe ». Donc, ils ont commencé quand même des rappels en France. Toyota a commencé en 2015 et le plus tard, c'est 2020 et c'est PSA.
Il y a une forme de pingrerie, si vous voulez, de la part de Stellantis avec cette fameuse psychopathie de la performance dont se targuait Carlos Tavares, qui fait que au-delà du problème qui renvoie au fait qu'ils avaient été floués, il y a le fait qu'ils voulaient que ça leur coûte le moins cher possible et que voulant gérer à l'économie...
Ça me fait penser un peu à Boeing.
Oui, c'est effectivement, si vous voulez, quand vous avez cette obsession de la performance financière, vous avez effectivement l'ensemble du système qui est fragilisé, donc en l'occurrence, les salariés souffrent, les sous-traitants souffrent, etc. Et puis, in fine, vous avez une prise de risque par rapport aux consommateurs. Effectivement, ce qu'on a tendance à souligner, c'est que quand c'est le consommateur qui est concerné, là, ça finit par éclater, et les problèmes que l'automobile pose sont peut-être en train d'être pointés parce que il y a des problèmes de sécurité pour les consommateurs.
Qu'est-ce que vous en dites, Marie-Amandine Stevenin, du FC Que Choisir ?
Mais on voit bien, et là, ça a vraiment été rapporté, y compris par l'auditrice précédente, c'est que pour des raisons économiques, par deux fois, le consommateur a été victime. Une première fois, parce qu'on a cherché à faire des économies et on a mis des airbags qui n'étaient peut-être pas les meilleurs airbags. Et une deuxième fois, concernant la procédure de rappel. Et la procédure de rappel en France, elle a commencé en 2020 et un petit peu après. Il y a une grosse procédure de rappel en 2024 qui concernait à l'époque quelques centaines de milliers de véhicules. Oui. Et déjà à ce moment-là, nous, à UFC Que Choisir, on a tiré la sonnette d'alarme en disant... C'est pas très cohérent parce qu'il y avait cette ligne nord-sud qui avait été tracée entre Limoges et Lyon. Et donc les véhicules en dessous étaient concernés, les véhicules au-dessus n'étaient pas concernés. Mmh. Ça, c'était assez difficile à comprendre. Un véhicule, en plus, par nature, ça bouge. Et ça a été démontré par la suite, malheureusement, puisque une automobiliste à Reims, donc au nord de cette ligne, est décédée d'un accident, qui implique en juin 2025. Mmh. Voilà, donc un an après. Et donc c'est là, à ce moment-là, où il y a vraiment eu cette énorme procédure de rappel qui a concerné et qui a immobilisé 1,7 million de véhicules. Mmh. Le danger qu'il y a, c'est qu'on a laissé le constructeur analyser le risque et prendre les mesures en fonction du risque analysé. Et on voit bien que la notion de risque analysé par le constructeur a évolué en fonction des cas qui étaient médiatisés au fur et à mesure. Et ça, c'est pas normal.
Et ils n'étaient pas d'accord entre eux, même aux États-Unis. Il y avait un rapport de certains constructeurs qui disaient « Bon, il y a une chance sur 130 000 que votre airbag explose. » Et puis, il y a un autre rapport qui dit « Il y a une chance sur 200. » Donc, on voit que les modélisations sont très, très variables, en fait.
Christophe Teuil.
Oui, je pense qu'effectivement, il y a un problème ici de gouvernance, si vous voulez, de la filière. C'est-à-dire que le régulateur, il a eu tendance pendant très longtemps à considérer que les rappels, c'était les constructeurs qui devaient s'en charger et qui devaient les organiser. Là, d'évidence, c'est à l'autorité régulatrice de prendre la maîtrise et de contester, de développer une contre-expertise qui permet de dire ce que vous ne voulez pas faire, nous on va vous obliger à le faire parce que c'est ça qui est raisonnable. À force de déléguer, de considérer que le seul compétent et le constructeur et son équipementier ont fait prendre des risques aux consommateurs qui sont un peu inconsidérés.
Allez, on repart au standard. Bonsoir François.
Ah, bonsoir.
Nous vous écoutons.
Oui, je reviens sur l'intervention de la première personne qui a eu un freinage intempestif quand elle roulait à 130 km/h sur une autoroute. C'est probablement parce que cette personne est arrivée relativement près, c'est-à-dire moins d'une vingtaine de mètres, derrière le véhicule qui la précédait. Et les voitures, les aides à la conduite sont programmées pour freiner en cas d'urgence. Donc tout ça, c'est un problème de programmation. Moi, il m'est arrivé la même chose et donc j'ai cherché à comprendre. Simplement, après, je suis allé dans paramètres de ma voiture et j'ai vu aide à la conduite qu'on pouvait arrêté toutes les aides à la conduite qui nous intéressaient pas. En particulier le freinage merci. D'urgence. Et il y a d'autres choses, hein. Il y a le freinage d'urgence. Il y a si vous allez un peu sur la bande à droite ou à gauche, le volant d'un seul coup, il va vous ramener au milieu de la route. Hein.
Oui.
Et ça, c'est des choses très désagréables. Et personne ne vous.
Oui, mais ça s'appelle une aide à la conduite. Voiture. C'est aussi pour avoir plus de sécurité.
Oui et non, parce qu'on fait moins attention, on se fie à ça, on fait moins attention. Si je mets le freinage d'urgence, je sais que si j'arrive trop près d'une voiture, ça va freiner brutalement. Mais ça me gêne, je préfère moi gérer mon véhicule.
Mmh. Christophe Teuil, vous qui représentez les experts, en fait, il faut les désamorcer, si j'ose dire, ces systèmes d'aide à la conduite, c'est ce que nous dit François.
Non, je crois qu'il faut qu'on reste raisonnable. Les systèmes d'aide à la conduite, comme vous l'avez souligné, c'est pour aider à notre propre sécurité. Ce sont des systèmes de haute technologie, certes, mais qui sont là pour éviter une collision, réduire les gravités. Ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que ces systèmes ont une limite aussi technologique. Les conditions environnementales sont extrêmement perturbantes des fois pour les capteurs, et donc il va falloir, alors je parle de la pluie, du brouillard, de la neige, le soleil rasant, mais ces capteurs vont évoluer au fil du temps. Mais il y a un point qui est essentiel aussi au-delà des paramétrages dont François nous parlait à l'instant, c'est la calibration des capteurs, c'est-à-dire le réglage des capteurs. Et on a un sujet dans le sujet, là, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est lors d'un remplacement de pare-brise, s'assurer, si votre véhicule est équipé de caméras dans le pare-brise, que le professionnel qui a changé votre pare-brise a bien fait la calibration, le réglage des capteurs.
Mais
parce
attendez,
que ces systèmes sont très
sensibles. Vous croyez que je vais penser à lui poser la question quand ça va arriver ?
Non, je crois
bon,
que
bah voilà.
les réseaux de professionnels de la réparation automobile sont équipés et formés, mais qui restent encore sur certains parties du territoire, peut-être des zones d'ombre ou de méconnaissance. Parce que même s'ils le font, il faut s'assurer, à la limite, il faudrait peut-être augmenter la réglementation en la matière en exigeant un certificat de calibration qui est fourni quelquefois de façon automatique par les réparateurs de pare-brise, et puis d'autres fois, ils ne le fournissent pas. Maintenant, les outils le permettent, les outils de contrôle et de calibration, et ça, c'est très important. Autre phénomène qui joue sur la calibration, c'est l'état du véhicule. C'est-à-dire qu'autrefois, on avait un petit choc dans le pare-choc, un petit choc dans la roue, eh bien, on s'y habituait. Et finalement, les capteurs qui sont très sensibles sont réglés et paramétrés en fonction d'un état alpha, on va dire, du véhicule, et un petit choc dans un pare-choc pour endommager un capteur, ou un choc dans une roue qui aurait désaxé un petit peu le jeu à la roue, on peut se retrouver avec des décalages. C'est pour ça qu'il est essentiel de se tourner vers des professionnels qui sont effectivement équipés et compétents.
On est quand même sur une surenchère technologique, Bernard Julien.
Il sauve des vies,
Bernard
Julien.
Il
sauve des vies, Madame Rivière.
Oui, oui, non, mais j'entends bien. Mais,
oui, alors...
mais je trouve que nous, en tant qu'automobilistes, on a parfois un petit peu de mal à s'y retrouver. Quand même, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'arriver et de piloter un ordinateur.
Oui, ce qu'on perçoit, c'est bien, si vous voulez, c'est qu'on a cherché à régler une partie des problèmes commerciaux et une partie des problèmes de sécurité routière avec cette complexification des véhicules. On a souhaité le faire pour le véhicule haut de gamme, et puis ce qu'on voit très bien avec les aides au freinage d'urgence typiquement, c'est que l'autorité réglementaire à Bruxelles finit par rendre ça obligatoire pour tous les véhicules, y compris les plus petits et les moins chers d'entre eux. Et à ce moment-là, il y a un jeu assez problématique qui consiste à vouloir développer ces équipements-là à moindre coût pour l'ensemble de la gamme, et ce, le plus vite possible. Hein. Et ce qui fait que
Il y a une fuite en avant qui est assez dangereuse.
Il y a effectivement une prise de risque croissante, et c'est vrai que à peine on a maîtrisé une technologie comme celle des airbags, que déjà il faut s'occuper des aides au freinage d'urgence sans avoir le temps de mettre en place tous les dispositifs qui vont permettre de fiabiliser tout ça et de le faire à des coûts qui soient raisonnables pour l'automobile. Quoi. Hein, et je pense qu'effectivement, les questions qui viennent d'être évoquées concernant la maintenance en cas de collision, mais même avant cela, hein, indiquent qu'on a quand même toute une série de questions qui ne seront réglées que chemin faisant. Et il n'est pas certain qu'étant donné la démultiplication des dispositifs qu'on rend obligatoires, on soit à même de le faire pour les dispositifs qui vous empêchent de franchir les lignes, les dispositifs qui vous empêchent, qui vous aident à freiner d'urgence. Tout cela, il y a une espèce, certains de mes collègues disent qu'il y a une espèce de technosolutionnisme, si vous voulez, qui est à l'œuvre ici, qui fait que cette surenchère technologique n'est pas complètement maîtrisée et la fiabilisation importe moins que l'équipement des véhicules en ces dispositifs.
Et on s'y perd un petit peu. C'est votre cas, Bernard, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons.
Oui, mais, écoutez, c'est un truc un petit peu rigolo, quoi, qu'on pourrait prendre à rigolade. Personnellement, j'ai pas eu de problème d'airbag, ma voiture marche très très bien.
Très bien.
Je l'ai acheté, ma voiture, il y a 4 mois maintenant. Alors, ma première surprise en l'achetant, c'était d'avoir droit à, je sais plus, une demi-heure de formation. Voilà, on m'a offert une demi-heure de formation pour découvrir un petit peu toutes les fonctionnalités de cette voiture. Et puis effectivement, alors c'est surprenant. Bon, je vous cache pas que je suis pas de la dernière génération. Hein. Je commence à avoir quelques cheveux gris, et donc je suis pas. Je vous parle pas de mon.
Oui, mais vous, c'est intéressant parce que Bernard, ce sont pas les jeunes qui achètent les voitures neuves très équipées. Hein. Je crois que l'âge moyen de l'acheteur, c'est
57 ans.
Voilà, 57 ans.
D'accord.
Je referme la parenthèse.
57 ans. Bon, j'ai un petit peu plus.
Oui,
encore,
mais c'est pas grave.
Mon épouse aussi, qui elle est encore plus affolée que moi. Je vous cache pas, elle refuse de conduire parce que c'est, y a trop de choses qui apparaissent. Et du coup, je me suis plongé un petit peu dans la notice parce qu'elle est quand même épaisse et puis il y a du boulot quoi pour lire toute cette notice. J'ai compté 106 symboles différents qui peuvent apparaître sur le tableau de bord. Et comment on fait ? Comment on fait ? C'est une question que je vous pose.
C'est
un témoignage que j'apporte et c'est une question que je pose. Quoi. Moi, à la limite, je rêve maintenant d'avoir une voiture complètement automatique où je puis m'asseoir derrière et puis lire mon bouquin, quoi, mon journal.
On n'y est pas encore aux voitures purement autonomes. Qu'est-ce que ça vous dit, Marie-Amandine Stévenin, le témoignage de Bernard ? C'est vrai qu'on s'y perd, hein ?
Ben oui, c'est vrai qu'on s'y perd, mais en même temps, si c'est pour notre sécurité, c'est des solutions qu'il faut accepter. Ce qu'on regrette, c'est plutôt le discours précédent qui était livré, où on nous dit, on demande à mettre des solutions de protection obligatoires sur des véhicules, mais comme il faut les développer pour pas cher, au niveau de la fiabilité, c'est peut-être pas très au point. Il est plutôt là, le problème. Après, je comprends que plus d'une centaine de symboles qui peuvent s'allumer dans une voiture, ça puisse faire un petit peu peur. Mais bon, il a eu une formation. Et encore une fois, si c'est pour notre sécurité, tant mieux. Ce qui va pas, c'est quand ça se retourne contre la sécurité du passager. Et d'autant plus parce qu'on poursuivait un but d'économie, parce qu'on a essayé de développer à grande échelle et pour pas cher quelque chose qui pourtant marchait très bien sur des voitures de luxe.
Oui, Christophe Teuil.
Oui, effectivement, je rejoins Madame Stévenin. Il faut quand même se rappeler, encore une fois, que ces systèmes sont là pour sauver des vies et surtout ne sont pas là pour se substituer. Hein, vous l'avez dit, on est loin des véhicules autonomes, en tout cas en Europe. Ils ne sont pas là pour se substituer aux automobilistes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans tous les cas, l'automobiliste doit rester concentré. Par contre, ce qui est certain, c'est que ces systèmes d'aide au maintien de voie, comme François parlait tout à l'heure, ou les freinages automatiques d'urgence, eh bien tous les jours, ils évitent aux humains des accidents parce que l'humain, par nature, eh bien il est dissipé. Le téléphone à la main, on en a parlé très souvent, et puis ce qui se passe dans l'habitacle, le fait d'écouter la radio, de pas être concentré. Je crois que l'évolution qu'il va y avoir, c'est vraiment l'intégration à la fois de ces outils technologiques de sécurité routière. L'adaptation des capteurs et des logiciels qui, effectivement, ne sont pas exempts de défauts et d'améliorations à aller chercher.
Absolument. Anne-Laure Barral souhaite intervenir.
Mais sur les airbags, l'un des arguments qu'on m'a donné, c'est ça sauve des vies régulièrement. Donc, en gros, on peut accepter que certains tuent les automobilistes, un peu comme le bénéfice-risque d'un médicament. Je ne suis pas sûre, en tout cas pour les familles de victimes, que ce soit compréhensible. En fait, soit l'airbag, il est là, il sauve des vies, soit il n'est pas là. Il y a plus de blessures. Mais ce n'est pas potentiellement l'airbag peut me tuer. Juste pour vous donner un exemple. exemple, dans l'enquête que j'ai faite, en fait, les premiers à alerter sur ces accidents, c'est les secouristes, c'est les pompiers, c'est les gendarmes qui viennent sur ces accidents, qui ne comprennent pas pourquoi la victime est morte alors que elle roulait à faible vitesse et que son airbag lui a tranché la gorge. Il y a même un pompier, il a été arrêté parce que, dans les années 80, quand ils intervenaient sur les accidents, c'était ce qu'ils disaient, c'est qu'ils arrivaient sur des boucheries. Et qu'effectivement, les moteurs, les véhicules ont progressé, que l'arbre de direction se plie quand il y a un accident, donc il ne transperce plus le conducteur. Il y a eu des progrès pour éviter qu'effectivement, il y ait de graves morts à cause des accidents de la route. Mais là, sur un objet de sécurité qui n'était pas obligatoire pendant longtemps, qu'il devient et qui devient potentiellement mortel, c'est là où la compréhension du public est à ses limites, quoi. De se dire, on peut pas me dire que c'est bénéfice-risque.
Bernard Julien.
Oui, je pense qu'il y a un problème quand même autour de cette surenchère technologique. D'abord, les dispositifs, on s'aperçoit qu'en termes de sécurité routière, ils sont, comme on dit en économie, à rendement décroissant. C'est-à-dire que les premiers dispositifs, c'était la ceinture de sécurité. Là, l'avantage en termes de vie humaine est considérable, quoi. Sur les airbags, on avait encore un avantage assez considérable. Sur les aides au freinage d'urgence, sur ce qui vous permet d'être maintenu dans la file, etc., là, le bénéfice, il est plus compliqué à détecter. Et effectivement, un des problèmes que ça pose, c'est que ça renchérit quand même assez considérablement les véhicules. Et que si on voulait que ce soit complètement fiable, il faudrait dépenser encore plus d'argent.
Ça veut dire qu'ils margent bien là-dessus, les constructeurs ?
Les constructeurs, ils margent quand c'est en option et qu'ils arrivent à ce que ce soit des consommateurs qui veulent bien payer. Quand il s'agit d'équiper une Fiat Panda ou une Renault Twingo, évidemment, le fait que ce soit obligatoire, c'est plutôt un embêtement, si vous voulez, pour le constructeur, qui du coup va chercher à limiter les coûts.
Et malgré cela,
eh bien, on va s'apercevoir que développer des petits véhicules, je ne sais pas, à moins de 15 000 aujourd'hui, c'est rendu infiniment compliqué par cette surenchère technologique. Donc je pense quand même que ce qui est en train de se passer nous incite à rendre des arbitrages de manière plus claire et d'arrêter de penser qu'on va régler tous les problèmes de sécurité routière à grands coups de renforcement de cette électronique embarquée qui, a priori...
Oui, parce qu'il y a toujours quelqu'un derrière le volant.
Monsieur l'expert le disait il y a un instant, on installe ces aides au freinage d'urgence ou ces dispositifs de maintien dans la file pour que les gens puissent téléphoner. Est-ce que le raisonnable, ce serait pas que les gens téléphonent moins plutôt que de les équiper de ce qui va leur permettre de conserver la liberté de faire n'importe quoi au volant?
Bonsoir Astrid.
Bonsoir.
Nous vous écoutons.
Merci de prendre mon témoignage. Moi, j'ai appelé pour vous raconter ce qui est arrivé à ma maman l'année dernière, au mois de juillet. Elle était propriétaire d'une Citroën C3 de 2018, un modèle assez récent, qu'elle avait par ailleurs acheté chez un concessionnaire en occasion, mais a priori avec toutes les garanties de sécurité qu'offre l'achat d'un véhicule chez un concessionnaire et non auprès d'un particulier. Oui. Et donc elle a eu la surprise en juillet dernier de recevoir un simple courrier lui précisant qu'il fallait cesser immédiatement de conduire son véhicule qui présentait des risques mortels. Alors peu de détails additionnels sur le courrier et puis pas de procédure claire à suivre. Donc elle s'est d'abord renseignée sur Internet parce qu'à l'époque le sujet n'était pas vraiment connu. On n'en parlait pas partout dans les émissions ou aux infos. Et une fois qu'elle a vu que c'était un vrai sujet, elle s'est rapprochée naturellement du concessionnaire Citroën le plus proche de chez elle. Et dans un premier temps, elle a posé la question de savoir s'il y avait un dispositif de véhicule de courtoisie ou de solution pour une location de véhicule. Personne qui l'a reçu lui a dit avec un ton un peu vraiment dédaigneux à la limite de la moquerie qu'il fallait bien qu'elle se doute que pour des millions de véhicules concernés, Citroën n'allait pas mettre un véhicule de prêt derrière chaque conducteur.
Pardon de vous interrompre parce qu'on arrive un peu à la fin de cette émission, mais là c'est obligatoire. C'est-à-dire depuis mardi, c'est le ministère des Transports qui l'a demandé, ils doivent proposer une solution de remplacement, un véhicule de remplacement, ils doivent proposer un rendez-vous à domicile ou un remorquage du véhicule en question, et ils doivent aussi, les constructeurs, lancer des campagnes d'information régulières, et il faut quand même, de toute façon, accélérer les rappels, on n'en finit pas. Il y a des gens qui ont encore 6 mois d'attente alors que leur véhicule ne peut plus circuler, Anne-Laure Barral.
C'est le fameux sigle que l'auditrice nous parlait tout à l'heure, le service de surveillance du marché des véhicules à moteur, le SSMVM. C'est une instance qui a été une autorité de surveillance du marché des véhicules qui a été créée en 2020 seulement. C'est aussi pour ça qu'on a un peu de retard par rapport peut-être aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a une autorité américaine, elle a 1 milliard de budget, ils sont 1000 agents, nous ils sont 8 dans ce service-là.
Ça nous donne une idée.
Voilà, mais c'est à lui qu'il faut signaler ces problèmes-là avec les concessionnaires qui ne remplaceraient pas votre véhicule alors que vous êtes sur la liste. Enfin, c'est aujourd'hui, il y a cette autorité qui existe au moins et qui essaye de faire son travail.
Pour conclure, juste en quelques mots, Marie-Amandine Stevenin, vous qui représentez les consommateurs, comment rétablir la confiance aujourd'hui? Parce qu'elle a quand même été largement entamée par cette histoire d'airbag.
Là, il va falloir qu'ils se montrent à la hauteur, hein, parce que ça fait plus d'un an que certains consommateurs attendent. Tout à l'heure, on a dit qu'il y aurait peut-être un avant et un après en matière de Takata. C'est le moment de montrer comment va être l'après.
Merci infiniment à tous ceux qui ont participé à ce débat avec vous, les auditeurs. Je voudrais remercier ce soir tous ceux qui ont assuré la continuité du Téléphone Sonne cet été, qui l'ont préparé, qui l'ont programmé, qui ont chouchouté les présentatrices aussi. Laura Dumez, Pierre de Certaines, Cyrine Ben-Younes, Simon Bardi, Elio Lamour, Nathalie Poitvin, Amaury Baucher. Merci aussi pour les chocolats et la bonne humeur. Au standard, Louise, Noémie, Awa, Oscar et Simon. Ce soir à la technique, Marie Potier, Ronan Mahé. Sans oublier celles qui ont dialogué avec vous en direct tout l'été, Charlotte Piré, Elodie Forêt. Lundi prochain, c'est le retour de la tôlière, Fabienne Sintès, et je vous jure, elle est en pleine forme. J'étais dans le bureau d'à côté toute la semaine. Elle a un gros volume sonore.